France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, question sur notre dépendance à la voiture. Alors que demain, les Gilets jaunes appellent à des blocages dans toute la France pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants, on va tenter ce soir de se demander comment on en est arrivé là. Pourquoi les citoyens, qui sont déjà obligés de prendre leur voiture au quotidien pour aller travailler et se ravitailler, sont prêts à reprendre le volant un samedi pour aller bloquer des ronds-points, des routes ou des supermarchés? On se demandera au passage si ce mouvement de protestation ne cache pas une colère plus vaste à l'égard de l'impôt en général, peut-être même une fronde d'une partie du territoire contre une autre. Reste que si ce mouvement cristallise à ce point la colère des automobilistes, c'est qu'il en dit long sur notre dépendance à l'égard de la voiture. Dans un pays où les trois quarts des personnes prennent le volant pour aller travailler, on se demandera aussi au passage si cette dépendance est plus importante qu'avant ou pas, si elle est destinée à perdurer ou non, si l'aménagement du territoire peut y remédier en dehors des grandes agglomérations, sachant que pour beaucoup, la voiture reste un plaisir et un instrument de liberté à l'heure où l'on tente d'en réduire la place pour cause de lutte contre la pollution et de partage de l'espace public. Avec nous, pour parler de tout cela, Mathieu Flonneau, bonsoir. Maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 1, spécialiste de l'histoire des mobilités, auteur de nombreux ouvrages sur la voiture, dont l'automobile au temps des Trente Glorieuses, et plus récemment, Vive la route, vive la République, aux éditions de l'Aube. Avec nous également notre confrère Olivier Razemont, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Spécialiste des transports, auteur d'un blog sur le site du Monde intitulé « L'interconnexion n'est plus assurée », auteur également aux éditions Rue de l'Échiquier de « Comment la France a tué ses villes ». Et puis bien sûr vos appels à vous tous au standard de France Inter, où vous êtes déjà très nombreux ce soir.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui de Damien, qui nous appelle depuis la Mayenne. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur, c'est ce que me dit ma petite fiche.
Oui, je suis éleveur laitier et on produit des céréales aussi. Et donc d'abord, merci de prendre mon appel et pour la qualité de vos émissions.
Mais je vous remercie pour le merci, Damien.
Et donc, je voulais ramener la première partie de ce que je voulais dire à un chiffre. Une fois à peu près 5 litres de lait vendus pour acheter 1 litre de gasoil. Donc, pour faire le plein de la voiture de la ferme, il faut qu'on vende à peu près 300 litres de lait. Et donc ça, c'est un constat, une fois à peu près 3 pleins par mois, et c'est indispensable, hein, c'est juste pour les déplacements professionnels de la ferme. Et puis, le deuxième point sur lequel je voulais souligner, c'est qu'on parle des voitures, mais il y a aussi tout le matériel. Donc comme là, nous, les tracteurs, on peut pas s'en passer, et ça consomme du GNR, et depuis 4 ans que je suis installé, mon budget a grimpé de 3000 euros par an et cette année, on va atteindre une hausse de 4000 euros à peu près par rapport à ma première année d'installation.
Donc Damien, ça veut dire que vous comprenez le mouvement qui aura lieu demain ?
Oui, je le comprends tout à fait parce que nous, le fait d'être rural, ça nous fait prendre la voiture très régulièrement. On peut pas faire sans, il n'y a pas de transport en commun. Et puis, donc ça, c'est du point de vue personnel et du point de vue professionnel, et ben les tracteurs, le jour où on présente un tracteur électrique ou autre chose, moi je viens, aujourd'hui ça n'existe pas. Et en plus, il y a différentes lois qui ont été votées qui nous font consommer plus de gasoil non routier, donc pour les tracteurs, parce qu'on n'a plus le droit à certains produits, on a des passages en plus ou autre.
En tout cas, vous n'irez pas pour autant bloquer les routes demain ?
Moi, j'ai pas prévu d'y aller, j'ai pas le temps, mais je soutiens vraiment le mouvement. Ouais. Et le syndicat dans lequel je milite sera présent, pas pour bloquer les routes, mais pour manifester sa présence devant la préfecture en Mayenne, pour dire que voilà, c'est assez, le prix de l'énergie devient insoutenable pour nous aussi, quoi.
Merci Damien pour ce témoignage. Ouais, Mathieu Flonneau, vous souhaitez peut-être réagir à ce que vient de nous dire Damien?
Bah, je pense que effectivement une analyse sociologique rudimentaire explique que ce monsieur a de la compréhension pour le mouvement, sachant qu'il est rural évidemment et qu'il appartient aussi à une profession qui, à certains égards, est assez vite cataloguée dans le monde d'hier. La réaction n'est en aucun cas surprenante et elle est au cœur de la question sociale que finalement recouvre la problématique des mobilités dans son ensemble et, je dirais, à quelques niveaux de territoire que l'on la considère. Il est évident que il faut contextualiser les réflexions qui peuvent avoir lieu sur l'augmentation du coût de l'énergie. Et de ce point de vue-là, il y a une leçon historique qui est très récente et qui est d'histoire contemporaine. Et c'était l'abandon de l'écotaxe qui, à bien des égards, recoupe totalement ce débat parce que c'est une mesure qui avait été décidée nationalement, qui avait été décidée dans un souci d'égalité du territoire, mais pas d'équité des territoires. Et certains territoires l'ont refusé, les bonnets rouges, une couleur aussi qui était mise en avant à l'époque, historiquement beaucoup plus longuement dans une tradition de la résistance de la Bretagne. Donc il y a là un côté jacquerie, croquant, enfin, que l'on pourrait se remémorer aussi. Mais cette résistance, par exemple en Bretagne, n'était pas vécue de la même façon, par exemple en Alsace, où l'on était demandeur de l'écotaxe précisément pour...
Eh bien, pour ne pas avoir les camions qui venaient d'Allemagne.
Ou en tout cas pour faire payer à la route son juste prix. Et pour peut-être initier le débat, bien évidemment, à moins que Olivier Razon souhaite réagir sur ce cas-là, mais pour initier le débat, je pense qu'il est évident que la route doit payer son prix. Je pense que là, ce dont est révélateur le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'elle est en train de payer un peu plus que son prix réel par rapport à la sélectivité des indignations, par rapport à d'autres catégories de personnes qui sont quelque peu, alors j'allais pas dire protégées évidemment, mais à l'écart de la répercussion réelle de cette augmentation.
Olivier Razon.
Alors oui, pour contextualiser quand même, j'ai bien compris 5 litres de lait pour 1 litre d'essence. Cela dit, depuis 30 ans, 35 ans, avec un SMIC, on roule davantage de kilomètres qu'avant. C'est-à-dire que d'abord, les voitures sont plus performantes. Ensuite, en fait, depuis 30 ans, par rapport aux autres indices des prix, c'est-à-dire en fait par rapport aux revenus, par rapport au loyer, etc., le prix de l'essence a plutôt baissé, contrairement à ce qu'on a l'impression, ce dont on a l'impression quand on doit faire le plein. Et puis par ailleurs, je veux quand même rappeler une chose assez simple, c'est que la hausse récente, elle est liée en partie à la hausse des taxes, mais elle est liée en plus grande partie, nettement plus grande partie, à la hausse du pétrole. C'est en train d'ailleurs de rebaisser un petit peu. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce que à chaque fois qu'il y a une hausse du pétrole relativement rapide ou relativement soudaine ces dernières années, depuis 10 ou 15 ans, il n'y a pas de mouvement comme ça anti-hausse, parce que ça vient tout simplement de l'extérieur, ça vient de la situation mondiale. Mais par contre, à chaque fois, on se pose la question, mais ok, on va faire comment autrement? Et un certain nombre d'idées arrivent en disant, on pourrait peut-être faire le covoiturage. Il y a toute une série de reportages à ce moment-là qui surgissent sur les autres possibilités. Et lorsque ça vient de taxes en partie, là, on n'a plus ça, on n'a plus cette recherche de solutions, mais on a au contraire une colère qui, à mon avis, va bien au-delà. Moi, je pense que c'est une colère qui est très, très liée également à l'organisation du territoire. C'est-à-dire qu'on a organisé, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, le territoire en faisant semblant de penser qu'on pouvait utiliser la voiture tout le temps et pour tous les trajets. Et voilà le résultat.
Organisation du territoire et manque de certains services dans certains territoires. Marianne est en ligne et elle souhaite justement nous en parler. Bonsoir Marianne, je ne sais pas de quel Bonsoir. Endroit vous nous appelez, dites-nous tout.
Alors j'appelle de Saint-Bonnet-de-Joux, c'est près de Charolles, c'est dans la Bourgogne du Sud. Et j'avais envie de raconter la vie à la campagne aujourd'hui. La vie à la campagne, c'est plus de médecins, plus de postes, plus de services publics. Nous avons été abandonnés par nos élus, qui sont deux fois trop nombreux, je me permets de le dire aussi. Soi-disant qu'il devait être un peu, le nombre d'élus devait être diminué, on n'a pas encore eu le bonheur de voir ça. Ils sont toujours aussi nombreux, il y en a même deux de plus dans notre circonscription.
Donc alors, Marianne, si je vous entends bien, le carburant, c'est un élément de colère, mais c'est peut-être déclencheur, mais c'est pas ça la raison de fond.
C'est un élément de colère, mais je vous assure que la colère, elle couve depuis longtemps. Les territoires, il y a beaucoup de territoires en France qui ont été abandonnés. On se demande pourquoi, parce que chez nous, la vie est agréable, il n'y a pas d'agressivité, on se sent très très bien, on vit très bien. Par contre, on est abandonné par notre pays, on est abandonné par la France. Si on n'a pas plus de médecins, on n'a plus de postes, si on veut rejoindre un hôpital, il faut courir à toute vitesse ou alors prendre une voiture et aller à 50 km et faire 50 km pour rejoindre l'hôpital. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des voitures diesel ou avec des voitures et les taxes qu'on veut nous imposer en plus? C'est comme si, ça fait, si vous voulez, ça fait double peine, en fait. Parce que on doit faire beaucoup de kilomètres et en plus on nous taxe et on nous a complètement abandonnés. Moi, si je devais dire ce que je pense, eh ben j'aurais même plus envie de payer des impôts puisque c'est même plus la peine qu'on paye des impôts puisque on a même plus de services publics.
Merci Marianne, mais on a parfaitement compris.
Autre chose à dire, je voulais vous parler.
Il se trouve que vous êtes très très nombreux ce soir, alors peut-être une question rapide, Marianne.
Oui, les aides à domicile. Ces aides à domicile qui circulent partout dans les campagnes et qui sont remboursées 37 centimes du kilomètre et qu'on oblige à rouler avec leur voiture, qui sont payées à coup de trique par le conseiller départemental. C'est un vrai scandale. Et maintenant, sur un petit SMIC, mais posez-vous la question, réfléchissez, combien il va leur rester à la fin du mois? Avec toutes ces augmentations de taxes. Et est-ce que vous croyez qu'elles ont les moyens de changer de voiture tous les quatre matins, comme ça, comme disait... J'écoutais le Premier ministre qui disait, oh, bah, écoutez, une famille il y en a un qui a le SMIC, on va lui donner 4000 euros, et puis il va pouvoir changer de voiture. C'est pas simple comme ça. On a l'impression qu'à Paris, on rêve. Voilà. Il y a plus, on n'est plus sur la vie des gens, on est dans le rêve. Et puis on donne de l'argent aux banques, et on donne de l'argent aux entreprises, mais nous, on va tous mourir desséchés à la campagne.
Merci Marie-Anne. Allez, non, vous n'allez pas mourir desséchés à la campagne. On va essayer de vous remonter le moral quand même ce soir. En tout cas, Mathieu Flonneau, quand on entend Marie-Anne, c'est très symptomatique.
Bien sûr,
on nous enlève les services publics et on nous demande de payer.
Et ce n'est pas faux. C'est-à-dire que le désarroi tranquille qui est exprimé là, qui n'a pas grand-chose d'une colère non maîtrisée, témoigne effectivement de l'abandon de certains territoires par la polarisation qui a été souhaitée, par la compétitivité des territoires, par une forme de libéralisme mal maîtrisé, mal compris, qui n'a pas grand-chose à voir avec une république performante et qui justement se préoccuperait des populations éventuellement laissées sur le côté, parce que le contraste qui est donné ici, il est frappant. On pourrait rajouter l'abandon des petites lignes de chemin de fer, on pourrait rajouter le contraste qui peut exister entre les politiques de grande vitesse, et c'est tout l'enjeu de la loi d'orientation sur les mobilités dont le gouvernement... entre spécialistes, on l'attend depuis maintenant plus d'un an. Et cette loi, on comprend, parce que tous les effets de réel que la situation contemporaine ressort, et l'actualité ressort, ils rendent cette loi très délicate. Parce que si l'on veut bien justement tenir compte des territoires, on ne peut pas essentialiser les usagers, on ne peut pas essentialiser les citoyens. C'est-à-dire que mettre ici, et pour moi c'est une erreur méthodologique majeure, les automobilistes, les cyclistes, les piétons, les usagers des transports en commun, sans comprendre les aspirations de ces populations et les pratiques réelles, c'est se priver de la compréhension d'un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, dont la politisation, on aura l'occasion d'y revenir, probablement lors de réponses et de questions, mais dont la politisation est tout de même très difficile à assurer. C'est-à-dire que certes, il y a certains partis politiques qui vont tâcher de prendre le chemin tracé, mais ils n'en sont pas à l'origine.
Olivier Razemont, oui. sur la détresse de Marianne, sur ce qu'elle nous dit sur les services
publics. En Côte d'Or,
si
j'ai bien compris. Oui, en fait, ce qui se passe, il y a les services publics qui ont été enlevés, et puis il y a des services publics qui ont été déplacés. Les agences régionales de santé, aujourd'hui, continuent à considérer que les hôpitaux doivent être placé en dehors des villes. Alors, là, en l'occurrence, elle est à la campagne, donc ça ne la concerne pas directement, mais effectivement, on continue à organiser l'espace, à organiser le territoire en amenant les gens à prendre leur voiture. J'étais l'autre jour à Montbéliard, l'hôpital a fermé il y a 2 ans, il a été réinstallé entre Belfort et Montbéliard, plus loin, dans un endroit qui est moins desservi par les transports qu'auparavant, et on le fait de manière systématique dans toutes les villes. Et on le fait avec les pôles emploi, on le fait avec les zones d'activité, on le fait on organise l'espace, et puis Mathieu Flonneau l'a dit assez justement, on privilégie la grande vitesse et les TGV, les lignes à grande vitesse. On l'a fait pendant des années et des années. Macron a dit on va plus faire ça, on va prioriser les transports du quotidien. Bon, très bien, sauf que pour l'instant, on continue et pourquoi on le fait? Parce que souvent, il y a des élus locaux qui demandent une ligne à grande vitesse parce que ça les arrange et puis ils connaissent de la même façon qu'on nous demande un aéroport à Périgueux. On a un aéroport qui sert à 500 personnes par an. Mais on veut garder l'aéroport. Ça ne veut pas dire 500 passagers, mais ça veut dire que c'est les mêmes personnes, les 500, qui prennent toujours l'avion. Et on veut veut le garder parce que c'est très important pour les personnes qui comptent dans la ville. Sauf qu'on se pose pas la question de savoir ce qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on donne pour organiser l'aéroport, pour les transports vraiment du quotidien. Et alors une fois qu'on a dit ça, effectivement, le gouvernement aurait pu réfléchir de manière plus avisée à cette question de transition écologique. Je pense que c'est une bonne idée, en fait. Je veux dire ça assez bizarrement, mais je trouve que c'est une bonne idée d'effectivement de dire ça n'est plus gratuit. Effectivement, il y a des taxes sur le gazole. Ben oui, il y a des taxes sur le gazole. Mais par contre, il aurait fallu que tout cet argent aille à la transition écologique, et il aurait fallu en même temps, puisque c'est le cas de le dire, dire on taxe aussi le kérosène. Aujourd'hui, on ne taxe pas le kérosène des avions. Et là, il y aurait eu un message qui allait vers différentes catégories de la société.
Mathieu Flonneau, je promets que je vous donne la parole dans une demi-seconde, mais il se trouve que Michel patiente au standard de France Inter et qu'elle a envie d'aborder ce thème-là. Je me trompe pas, Michel ? Bonsoir.
Bonsoir. Moi, j'écoute beaucoup d'émissions sur ce sujet et j'essayais de vous joindre, donc je suis contente de pouvoir dire que je fais partie des gens qui en ont ras-le-bol d'entendre toute cette place qui est faite aux Gilets jaunes, parce que je ne comprends pas du tout ce mouvement. Je crois qu'il se trompe de combat. Le seul combat qui doit avoir lieu en ce moment, c'est celui de préserver l'environnement, la planète. Et là, je ne comprends pas ces gens qui se plaignent de l'augmentation du prix du pétrole, alors que dans ma région, moi je suis en Savoie, je trouve pas qu'elle ait augmenté autant que cela. Et qu'à côté, on ne parle pas des problèmes primordiaux. Enfin, on en parle, mais pas suffisamment. Quoi.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai compris un petit peu tout à l'heure en disant que les pionniers de ce mouvement sont des gens qui aiment l'automobile. Donc là, oui, effectivement, ça veut tout dire. Quoi. Voilà, il faut remettre les choses à leur place, je pense. Et bon, j'ai lu tout à l'heure sur lemonde.fr qu'il y avait un mouvement. Moi, je suis retraitée, donc je suis pas sur les réseaux sociaux. Qu'il y avait des gens quand même qui s'opposaient à ça, les chemises bleues ou je sais pas quoi, mais personne n'en parle. Donc il faudrait faire aussi peut-être un rapport de force.
Merci Michel. Merci pour cet appel. Mathieu Flonneau sur cette taxation du gazole pour la préservation de l'environnement.
Oui, oui, mais écoutez, la sélectivité des indignations écologiques me semble effectivement quelque chose qui doit être mis à plat également dans le débat, c'est-à-dire que l'opération vérité des coûts qui désormais fait que la route doit payer, je le répète, et que il est nécessaire que cette mobilité toujours accrue, toujours à plus de libre arbitre et de disposition, n'est aujourd'hui plus tenable, n'est plus soutenable. Néanmoins, il y a d'autres éléments qui doivent mettre dans le débat. Il y a beaucoup de désinvolture avec l'argent public. J'étais récemment à des réunions ou pour le Grand Paris Express, par exemple, transport public dit vertueux, on nous annonce désormais une facture à 60 milliards. Il y a beaucoup de désinvolture sur les modes gadgets de centre-ville, où l'offre est déjà pléthorique. Je veux parler des trottinettes qui n'assurent en aucun cas une meilleure civilité. Soi-disant, c'est mobilité douce. On est là quand même dans une logique qui fait que les automobilistes, je pense qu'ils ne sont pas si finalement audibles que cela en temps normal. Là, on les voit. Et effectivement, il y a un mouvement. La couleur jaune leur donne une certaine visibilité qui est quand même assez neuve. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt intimidation moralisante à l'encontre des gens qui doivent, parmi les deux premiers auditeurs, utiliser leur voiture au quotidien parce qu'ils y ont été à certains égards contraints, mais aussi, c'est quelque chose que l'histoire nous apprend dans le tableau, les Trente Glorieuses ont été aussi un moment de consentement à l'automobile. Et je reviendrai sur le titre de votre émission parce que, certes, il y a un degré de dépendance, mais ici, il y a un niveau de consentement.
Oui, les constructeurs automobiles adorent vendre les voitures comme des objets qui vont rendre libres, heureux, indépendants, etc. Et en fait, en pratique, c'est l'inverse. Les gens se retrouvent dans les bouchons à devoir payer effectivement leur essence, mais pas seulement leur essence, tout simplement la voiture, la dépréciation de la voiture, l'assurance, et le garage, etc., etc. Je voudrais dire merci à Michel parce que effectivement, oui, on en fait beaucoup sur cette affaire parce que c'est nouveau, parce que on l'a pas vu venir, parce que c'est hors des partis politiques. Et puis
parce qu'il y a une vraie révolte populaire. Et puis,
effectivement, mais je voudrais aussi dire merci, je vais en profiter, pour dire merci à tous les gens qui font autrement. Et qui pourraient aussi se dire, après tout, non, c'est trop compliqué. Mais les gens qui n'habitent pas justement dans l'endroit où il y a des trottinettes en libre-service, qui habitent dans les endroits où parfois ils habitent à 10, 15 kilomètres d'une ville, et puis ils vont quand même en ville, soit à vélo, soit ils prennent le train tous les matins, soit ils prennent d'abord un car et puis ensuite un train, soit ils se sont mis au bus urbain, soit ils ont découvert qu'avec un vélo à assistance électrique, ils pouvaient. Et donc ils font. Ils demandent rien à personne. Ils disent pas, moi, ils pourraient aussi faire partie des gens qui râlent en disant, après tout, ma voiture est indispensable. Mais non, ils s'arrangent, ils regardent ce qui se passe. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui est à Journan, 355 habitants, c'est dans l'Ain, qui s'appelle Pierre, et puis qui, il y a 2-3 ans, a eu un problème de santé qui l'a empêché de conduire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi, comment je vais faire? Il a pensé au covoiturage, il a regardé autour de lui, il a vu des tas de gens qui pouvaient éventuellement l'emmener en voiture. Et donc il a créé une association qu'il a appelée Pierre qui roule, et cette association, maintenant il peut conduire, mais elle fonctionne de nouveau, elle fonctionne toujours, et il emmène des gens, et elle est un relais, c'est à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, mais pas juste à côté, c'est dans les contreforts du Jura, et puis ça fonctionne, et là il y a des gens qui font des tas de trucs super, partout, pas seulement dans les grandes villes, et je pense qu'on peut les remercier aujourd'hui.
Et ben justement, il y en a un qui est en ligne, c'est Jean-Pierre qui nous appelle à son tour et qui visiblement a laissé la voiture. Jean-Pierre, vous êtes là ?
Oui, bonsoir Claire.
Bonsoir à vous, bienvenue. Racontez-nous.
Alors, merci pour la qualité de vos émissions, ça fait 40 ans que j'écoute France Inter. Alors, moi c'est pas Pierre qui roule, c'est Jean-Pierre qui roule.
Namaste Pamousse.
Mais qui roule par le train. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi dans mon métier, je dois me déplacer dans toute la France. Je suis formateur en santé, santé, sécurité au travail. Et en fait, pendant des années, je n'ai voyagé qu'avec la voiture, ce qui m'a amené quand même à un moment à faire pratiquement 90 000 km par an. Et il y a un moment, à force de changer de voiture tous les 3 ans, j'ai quand même pris conscience que peut-être je pouvais faire différemment. Donc aujourd'hui, eh ben, j'ai quand même diminué mes kilomètres de moitié. Alors je suis à peu près à 40 000 km parce qu'il y a plein de missions que je ne peux pas faire par le train. Mais par exemple, dans 15 jours, je vais me déplacer toute une semaine depuis Besançon jusqu'à Paris, en passant par Orléans, Nouhans-le-Fuselier, Marseille, Cannes et retour sur Besançon. Et ben, j'ai passé une heure hier à organiser ce voyage. Donc c'est les correspondances de train et grosso modo, j'en aurai pour 287 euros et je pense qu'en voiture, ça devrait coûter beaucoup plus que ça.
Donc vous dites que c'est faisable ?
Ah, c'est tout à fait faisable. Alors, bien sûr, il faut aussi aimer marcher parce que le train va pas partout. Des fois, il y a le métro, des fois, il y a les tramways, des fois, il y a des bus, mais des fois, il y a rien. J'ai fait, il y a pas très longtemps, j'ai traversé une forêt pour aller chez un client à 7 heures du matin. Mais après, j'ai compris qu'il y avait un bus et j'ai fait autrement. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cet exemple. Mathieu Flonneau.
Oui.
Quand on veut, on peut.
Mais je pense que la question, ce n'est évidemment pas aussi simple que ça, sinon il n'y aurait pas de problème. De surcroît, donc il n'y aurait pas cet effet de réel tout de même. Et de surcroît, je pense que la culpabilisation des automobilistes a été jusqu'à présent très clairement contre-productive. Donc le fait que l'on puisse se poser la question, c'est une nécessité absolue. Je note quand même que parmi les exemples qui sont donnés, il y a la résilience de la route également qui est citée. C'est-à-dire que la culture routière n'est pas à jeter en bloc parce que le principe du partage de la route
en bloc, hein.
Sur
personne
le mode.
Ne la jette
non,
en bloc.
Mais je suis un peu inquiet.
Personne
moi.
Dit qu'il faut se passer de voiture tout le temps et partout, personne ne dit jamais.
Alors,
ça.
Mais moi, je suis un peu inquiet, à certains égards, malgré la beauté qu'ont été ces états généraux de la mobilité préparatoire à la loi, je suis un peu inquiet du côté rudimentaire des slogans, finalement, sur lesquels on redébouche après, qui font de la guerre modale, eh bien, un nouvel épisode. Ce que je veux dire par là, c'est qu'archaïser l'automobile est inutile pour réfléchir à une meilleure utilisation de son empreinte carbone et de sa capacité de mobilité. Autrement dit, il y a quand même là dans l'accusation récurrente qui est faite à l'automobile, ouais. Et puis j'entends bien quand même l'une des dimensions de l'argument, c'est-à-dire que les constructeurs automobiles ont leur rôle, mais je pense c'est une profession qui sait, et je la connais d'assez près, c'est une profession qui s'est beaucoup posé la question de la responsabilité sociale.
Avant
de l'entreprise.
Ou après l'affaire Volkswagen ?
Ah mais déjà, mais il y en a avant.
Non mais,
évidemment.
Non mais d'accord, mais on continue.
Non, là je pense que c'est un très mauvais procès, diesel est politiquement mort, mais actuellement il serait beaucoup plus intéressant que d'autres motorisations
vertueuses. En contrôle comme ils l'ont fait de manière systématique.
Ah mais je n'irai jamais jusque-là.
Ils ont une responsabilité énorme, je pense qu'on peut le dire. En faisant des pubs absolument mensongères qui expliquent qu'on peut faire absolument tout avec une voiture et que c'est absolument génial. On la montre toujours seule cette voiture. Généralement on prend une image qui a été prise soit en Uruguay, soit au bord de à peu près du volcan de la Réunion et on dit regardez vous avez la liberté absolue. Après on se retrouve dans les bouchons à Villeneuve-Saint-Georges.
Petite question encore sur le fait de pouvoir passer de la voiture à d'autres modes de transport. Vous m'arrêtez si les chiffres ne sont pas les bons, mais j'ai vu que d'après l'INSEE, une étude de 2015, 70% des Français vont travailler en voiture, mais surtout que 58% de ceux qui ont moins d'un kilomètre à faire le font en voiture. Oui. C'est vrai ça ? Moins d'un kilomètre ?
Il y a une petite nuance quand même. C'est quand c'est moins d'un kilomètre, on considère que c'est la même commune. On considère qu'en fait, c'est le centre de la commune. Donc, ça peut être un peu plus d'un kilomètre en général. C'est-à-dire qu'on considère
que... Ce chiffre mérite d'être raffiné parce que la voiture n'est pas nécessairement de l'autosolisme. Et là, évidemment, l'autosolisme, qui est aujourd'hui évidemment le parangon de tous les défauts, l'autosolisme est tout de même une exception dans la journée, puisque on peut emmener les enfants, on peut aller chercher les grands-parents, on peut utiliser sa voiture à plusieurs, et à un instant T, on peut être seul.
Cela dit, effectivement, il y a des gens qui font 500 mètres en voiture tous les jours. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, j'étais à Reims, dans un quartier assez populaire de Reims, il y avait une dame qui a des enfants, qui était logée dans un immeuble relativement social, dans lequel elle avait un loyer, etc., assez faible. Et elle devait amener ses enfants à l'école tous les matins. Et pour ça, les organisateurs de la maison, du bâtiment social, lui ont dit « on va vous prêter une voiture électrique pour faire 500 mètres ». Moi, je leur ai dit « mais attendez, il n'y a pas moyen de faire autrement, peut-être ». Non, vous comprenez, c'est très compliqué, il n'y a pas de trottoir, il y a une passerelle, il y a un carrefour compliqué à traverser.
Il n'y a pas de trottoir, c'est un vrai souci
quand
même.
Oui, c'est un énorme souci. Mais à ce moment-là, est-ce que le rôle à la fois des pouvoirs publics, des décideurs, de tous ces gens qui ont une maîtrise finalement des éléments, c'est pas de dire à la municipalité, attendez, faites-nous là des trottoirs pour que cette dame puisse emmener les enfants à l'école, faites en sorte qu'on puisse passer facilement le carrefour, en gros, aménageons l'espace de façon à ce qu'on puisse ne pas être dépendant de la voiture. La voiture était électrique, bon bah ok, super, tout le monde se réjouissait, mais sauf le vrai problème, c'est devoir être dépendant d'une voiture pour faire 500 mètres pour emmener ses enfants à l'école.
On reparlera de la voiture électrique dans quelques minutes, parce que c'est intéressant aussi comme sujet, et on a beaucoup de messages, mais d'abord, on repart au standard où nous attend Sylvain qui nous appelle depuis l'Ardèche. Bonsoir oui. Sylvain.
Oui, bonsoir.
C'est à vous, vous êtes sur l'antenne.
Oui. Merci beaucoup, merci pour la qualité de vos émissions. Je voulais intervenir parce que pour ma part, donc je suis directement concerné et impacté sur l'augmentation du carburant parce que je suis infirmier libéral et que à travers ma profession, évidemment, j'utilise ma voiture tous les jours quasiment. Donc forcément, à un moment donné, il faut choisir déjà un véhicule qui consomme le moins possible. Donc je suis passé du diesel à l'essence, et puis maintenant essayer de trouver un mode de déplacement qui est, c'est-à-dire les voitures les plus sobres possibles. Donc en fait, je me joins pas au mouvement parce que je pense qu'il faut qu'on prenne notre part de responsabilité chacun et que à un moment donné on se pose les bonnes questions. Il y a des problèmes qu'il y a environnementaux, donc c'est à chacun de prendre sa part. Mais par contre, là où je voulais aborder le sujet qui me semble complètement en dehors, enfin dont personne ne parle en fait, c'est que pour que chacun prenne sa part de responsabilité, il faudrait aussi qu'on mette devant leurs responsabilités les transports aériens, les transports maritimes, qui eux ne sont pas taxés, évidemment, le kérosène n'est pas taxé, les gros tankers qui transportent des marchandises à travers le monde entier pour nous, voilà, ne sont pas brûlent du gros lourd qui pollue énormément. Alors j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais c'est des pollutions qui sont considérables par rapport à l'automobile. Et par contre, on n'entend pas parler. Alors le vrai combat, je trouve, moi, c'est ça, c'est aller exiger de nos politiques, exiger qu'il y ait une égale, que tout le monde prenne sa part justement de responsabilité et que on aille chercher aussi taxer
tous ceux qui polluent avec leur carburant. Merci.
Voilà, c'est le mode de transport, voilà, qui sont hyper polluants.
Merci beaucoup Sylvain. Olivier Razemont.
Oui, mais effectivement, on en parle un peu plus qu'avant. Il y a quelques années, on parlait de taxer le kérosène, c'était presque un gros mot. Maintenant, on le voit de plus en plus et ça arrive dans le débat public. Tant mieux, et au passage, tant mieux si ce débat sur le prix du carburant au départ, et puis on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, fait parler de la mobilité, des transports. Jusqu'à présent, on avait des spécialistes des transports qui discutaient de manière tout à fait efficace et savante, hein, mais en connaissant très bien les choses, y compris d'ailleurs de la mobilité en milieu rural. Il y avait toute une série d'études qui étaient faites, mais c'était plutôt une sorte d'entre-soi, on en discutait, et maintenant ce débat arrive dans le grand public, et tant mieux, et peut-être que c'est l'occasion de réfléchir à chacun de nos comportements et à nos réflexions, y compris justement par rapport à l'avion et par rapport aux objets qu'on fait venir du monde entier par bateau.
Mathieu Flonneau.
La problématique mobilitaire est effectivement peu engageante, parce que l'explosion exponentielle des trajets en avion d'ici une vingtaine d'années. On prévoit tout de même près du doublement du trafic aérien dans certaines zones de la planète. Eh bien, laisse évidemment très inquiète par rapport à ces évolutions énergétiques majeures. Il faut faire un bilan carbone de tous les comportements. De tous les comportements également. Alors, il y a quand même une fracture rurale, espace urbain, espace périphérique, France périphérique, et puis hypercentre. Et là, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est assez insupportable pour des Français qui se considèrent comme étant à l'écart de cette France gagnante. Je pense que tous les effets d'aubaine de centre-ville sur l'offre pléthorique de transport. J'y reviens un instant.
Qu'est-ce que vous appelez un effet d'aubaine?
Mais l'effet d'aubaine, c'est par exemple le très très faible coût des services de mobilité. Je pense à Vélib, dont l'inanité a été présentée il y a déjà quelques mois et dont la survie est, à mon avis, très peu chiffrée. Donc il faut donner le vrai coup. Et ce débat-là permettrait précisément de donner le vrai coup. Le vrai coup des écoquartiers. Le coup des écoquartiers ou l'effet barbecue, comme on dit. Il n'y a plus de voitures, certes, mais il y a des voyages low cost.
En fait, avion, quand on regarde, c'est on est quand même ça.
Les effets rebonds de la mobilité, là, sont très spectaculaires.
Il y a une étude du CEREMA, d'un truc de l'État, qui
il y a beaucoup d'études sur le sujet, oui.
Oui, mais qui montrait qu'en fait, les gens qui sont les plus dépenseurs de CO2 en termes de, les plus émetteurs de CO2 en termes de transport, c'est les plus diplômés, qui habitent pas nécessairement en pleine ville, mais qui habitent plutôt en périphérie proche, parce qu'on confond, quand on dit périphérie, on confond tout, on parle de on imagine que c'est la campagne, non, les banlieues proches, très, et plutôt riches, et c'est là que les gens ont à la fois, et la voiture, et l'avion. Et puis, effectivement, bah, il faut se faire un bilan de tout, et y compris d'ailleurs de notre, addiction à Internet. Ça va un jour arriver, effectivement. Faut se poser cette question aussi.
Voilà, et notre addiction aux livraisons, parce que c'est vrai que quand on est dans des grandes villes, où il y a les commerces partout, aller, se faire livrer,
j'en veux beaucoup à ces gens qui se font livrer alors qu'ils habitent en pleine ville
et qui se font livrer par des
mobylettes polluantes.
On repart au standard. Cette fois, c'est Stéphane qui est en ligne. Il nous appelle depuis la Vienne, me semble-t-il. Bonsoir, Stéphane.
Oui, bonsoir. Donc, moi, je vous appelais en fait pour vous donner un témoignage. En fait, nous, on est passé à la voiture électrique en 2012. On avait acheté une petite Peugeot Yon, là. Et maintenant, on a deux voitures, deux Nissan Leaf, là. Et depuis maintenant 6 ans, on n'a plus de voiture à essence, en fait. Voilà, on a supprimé complètement les voitures thermiques. À notre grand bonheur, en fait.
Merci beaucoup, voilà. Stéphane. Et j'ajoute qu'on a pas mal de questions sur franceinter.fr sur cette question de la voiture électrique. Est-ce qu'elle est forcément propre, Olivier Razemont?
Ça dépend. Alors, quand on est derrière à vélo, oui. C'est beaucoup mieux. Alors, si on prend l'ensemble du bilan du puits à la roue, comme on dit, pas forcément, parce qu'en fait, d'abord, il faut la construire, il faudra la détruire, et puis il faut s'approvisionner en électricité. Ça dépend de la source de l'électricité, donc c'est pas si simple que ça. En revanche, ce qui est intéressant avec la voiture électrique, c'est qu'elle amène à un changement de comportement. C'est-à-dire qu'on se pose la question de où on va recharger, de combien de temps ça va durer. Donc, on a peut-être la possibilité de se dire tiens, mais là, ce trajet-là, il n'est pas forcément indispensable. Là, je suis en train de recharger ma voiture. Bah, finalement, je vais laisser se recharger. Et puis le pain, je vais aller le chercher à pied ou à vélo.
Mathieu Flonneau, sur cette question de la voiture électrique est l'avenir de la voiture ou
Elle est très ambivalente. Elle est très ambivalente et elle n'est pas l'avenir de l'automobilisme que le XXe siècle a construit, c'est-à-dire un automobilisme qui est un universaliste, qui permet de gagner tous les territoires, avec les désastres éventuellement, mais aussi toutes les externalités positives, parce qu'on n'en parle pas. Mais s'il y a eu un tel consentement à l'automobile, c'est pas parce qu'on a mis un pistolet sur la tempe aux gens, c'est que véritablement, elle crée une richesse. Cette mobilité-là, cette capacité de mobilité, a exploser les capacités aussi d'employabilité des gens. Donc le regard là que l'automobilisme électrique, nouvelle manière, risque de porter sur l'automobilisme traditionnel, c'est une mobilité dégradée. Et ça, c'est quelque chose de très difficilement acceptable pour les citoyens contemporains.
On est quand même 18 ans après la fin du XXe siècle. Et en fait, oui, c'est un objet extraordinaire. Il suffit d'appuyer sur une pédale pour se propulser à plus de 100 km/h. C'est génial. Le truc, c'est comme tous les outils. C'est comme notre smartphone. C'est comme tous les outils. Si on le surutilise, ça a énormément de nuisances. Et là, on n'a pas parlé de l'indépendance énergétique, du bruit, de la pollution atmosphérique.
Je le partage totalement. J'attire juste votre attention sur le fait qu'une belle carrosserie automobile, chez certains, ça n'évoque rien. Ça peut être un objet d'art. Ça peut être quelque chose que l'on exploite.
On peut la louer de temps en temps.
Mais ça n'est pas un smartphone et ça n'est pas une brosse à une automobile.
On va prendre un tout dernier appel, même s'il est 19h55, parce que David est en ligne. David, je vous prends à l'antenne si vous me promettez de ne pas être trop long en guise de conclusion à cette émission.
Très court.
Dites-nous tout.
Écoutez, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, il est très important parce que, si vous voulez, le gasoil, c'est un déclencheur à ce qu'on se rend compte tous tous les jours. Moi, je vis en zone rurale, donc je fais beaucoup, beaucoup de trajets en voiture pour aller au travail. Je suis obligé. Et en fait, si vous voulez, quand on fait le compte de tout ce qu'on doit donner, donc c'est-à-dire en gasoil, le loyer, les impôts, etc., etc., à la fin du mois, à la fin de l'année, quand on divise ce qui reste pour nous,
il reste pas grand-chose.
Il reste rien du tout. Il reste rien du tout. Et après, il faut encore faire les courses. Il faut encore vivre, tout simplement. Et après, pouvoir être libre, quoi. Aujourd'hui, on a plus de liberté parce qu'on a trop à payer.
Merci. Donc, du coup, beaucoup, David, pour cette toute dernière intervention qui montre, Mathieu Flonneau, que l'exécutif n'est peut-être pas sorti de l'auberge parce que le problème, il ira bien au-delà des taxes pour les carburants.
Il y a une convergence, là, effectivement, des inquiétudes de la société française, enfin, qui était perceptible il y a un an, au moment des élections présidentielles. L'alternative populiste n'est évidemment pas une solution. Il faut songer à, évidemment, une meilleure pédagogie. Alors, c'est peut-être pédant de l'évoquer, mais il y a des éléments, là, dans les comportements à changer, individuels, et puis aussi dans, encore une fois, j'y reviens, sur cette sélectivité des indignations écologiques qu'il s'agit véritablement de revoir pour assurer une équité territoriale.
Olivier Razemont.
Oui, le carburant, quand même, c'est une part minime du coût d'une voiture, en fait. C'est-à-dire quand on compare à l'assurance, quand on compare à l'entretien, tout simplement, ne serait-ce qu'au contrôle technique, qui coûte très cher. Donc, en fait, alors, je comprends bien.
Enfin, les gens qui vous expliquent en ce moment que le budget carburant, c'est 300 euros par mois, c'est énorme.
Mais le reste du budget de la voiture est beaucoup plus élevé. Et alors, parfois, il y a effectivement, je pense aux infirmiers justement, aux personnels de ménage, etc., qui n'ont vraiment pas d'autres possibilités et qui bougent énormément et qui gagnent peu. Mais il y a dans certains cas où on a des foyers où il y a trois voitures. Le fait de passer à deux, ou le fait de passer de deux à une, ou de une à zéro quand on n'est pas très loin d'une ville, eh ben, ça permet de faire des économies substantielles, bien plus supérieures que les taxes sur le carburant.
En guise de conclusion, tous les deux, cette loi sur les mobilités qu'on attend, quelles devraient être ses priorités?
Moi, je pense, oui, vas-y.
Non, je t'en prie.
Allez-y, pardon.
Alors, Mathieu Flonneau.
Ben, elle est très attendue, naturellement, et la difficulté pour son accouchement est révélatrice de la tension, de la question sociale qui prend toute son ampleur derrière la question.
Il y a des débats en coulisses, il y a des bras de fer,
évidemment, et il y a des lobbies de tous les côtés.
Qui sont à l'œuvre actuellement?
Ah mais qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années. Et puis, il est faux de dire qu'on n'a pas vu venir la chose. Je la diagnostiquais dans un ouvrage intitulé « Défense et illustration d'un automobilisme républicain » paru en 2014, qui capitalisait des réflexions depuis 4 ans déjà.
Et on sera fixé quand? C'est la semaine prochaine que
pas du tout,
on doit avoir des noms? C'est toujours reporté?
Un des deux mercredis qui vient, ça sera présenté au Conseil des ministres, discussion au Sénat en février.
Et amendement possible.
Et amendement, bien sûr, etc.
Et pour vous, Olivier Razemont, quelle devrait être la priorité d'une telle loi? Vous avez 30 secondes.
Les transports du quotidien, première chose, vraiment les transports du quotidien, donc pas des LGV partout, etc. Et une réflexion, du coup, et forcément, ça passe par les collectivités, et faire confiance aux collectivités, qui en fait sont capables aussi de réfléchir à ces questions-là. Et puis, faire en sorte que le débat soit public, qu'on en parle de partout. C'est ça qui est en train de se passer, et à la limite, tant mieux.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir, Olivier Razemont, Mathieu Flonneau. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Ils étaient très nombreux ce soir. C'était pratiquement, sans mauvais jeu de mots, l'embouteillage au standard du téléphone sonne. Merci aux standardistes qui ont pris vos appels à vous tous. Merci à June Lopère qui a réceptionné vos mails. À la technique ce soir, Patrick Henry, Philippe Duclos et Tiffany Battistel, qu'ils en soient remerciés. Après le flash de 20h, tout à l'heure, vous retrouverez Laure Adler pour l'heure bleue.